Alors on dit parfois que la religion est l'opium du peuple, et c'est vrai que ça peut être le cas, et ça a pu être le cas. Je crois qu'il y a là, effectivement, dans le message qui est proposé autour de cette méditation de l'Évangile, selon Luc au chapitre 2, il y a en même temps un risque, et il y a vraiment quelque chose donc de la richesse de l'Évangile qui est proposé aussi. Le risque, le danger que l'on peut voir, par exemple, dans le premier paragraphe, eh bien, c'est que tout soit projeté pour une espérance dans la vie future, où au-delà de la mort, nous serons dans la joie éternelle, et il peut y avoir donc un message, souffrez bien dans ce temps présent, et à ce moment-là, eh bien, vous aurez un paradis formidable après. Il y a là, je crois, vraiment une aliénation qui n'est pas du tout voulu par l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, eh bien, le salut, il est pour aujourd'hui et pour maintenant. On le voit particulièrement dans Marie, dont la vie est fécondée par l'Esprit-Saint, alors qu'elle ne le cherchait pas spécialement, d'ailleurs, bien entendu. On le voit au contraire dans Siméon, qui lui a passé une vie à attendre, mais qui finalement, dans ce temps, dans cette vie, eh bien, peut saisir, peut tenir dans ses bras, peut voir de ses yeux le salut qu'il attendait, et il voit donc la réalisation de la promesse, mais pas dans la vie future, non, dans ce temps. Et donc ça, c'est l'Évangile. Si vous voulez, l'Évangile, on en parlait tout à l'heure avec l'un d'entre vous ici, qui en discutait avec le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois. Nous sommes tous d'accord, le salut, si vous voulez, le royaume de Dieu, il est au milieu de nous, il est au-dedans de nous, il n'est pas seulement dans la vie future. Alors cette dimension qui est de l'ordre de la qualité d'être est plus forte que la mort, nous l'espérons. Mais en attendant, nous verrons bien, car c'est aujourd'hui qu'il faut vivre. Et la vraie question, finalement, ce n'est pas tellement celle de la vie après la mort, nous verrons bien. La question, c'est de savoir s'il y a une vie avant la mort, bien entendu, comme on dit un peu en rigolant. Et donc le salut était attendu par Siméon, enfin il peut le tenir. Alors d'accord, le salut, quelle que soit la manière dont on entend cela finalement, il est à attendre, comme le propose Siméon, et je crois qu'il y a là, oui, une dynamique, il y a là quelque chose qui est de l'ordre de l'utopie, de l'idéal que l'on attend activement, on est en cheminement grâce à ça, c'est pas quelque chose de statique. Mais en même temps, on peut l'atteindre en partie, ce salut, on peut le vivre, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une réalisation au cœur de notre être, et donc la mort dont on parle ici, finalement, c'est la mort de tout ce qu'il peut y avoir de négativité en nous-mêmes et dans ce monde. Alors c'est bien que ce soit exprimé d'une manière comme ça, imagée, en parlant du tombeau, car souvent, la mort dans l'Évangile, c'est quelque chose qui est de l'ordre du péché, mais qu'entend-on par là? Cela aussi est tout à fait, finalement, du patois théologique. Eh bien, finalement, on le voit un peu là, finalement, parce que quel est le péché qui est ici? Et quand on parle de la purification de Marie, puisque cette cantate s'est donnée pour le jour de la purification de Marie, et c'est le thème de ce passage de l'Évangile. On ne parle pas d'un péché extraordinaire qu'aurait fait Marie pour avoir besoin d'être purifiée. D'autant plus qu'elle vient de donner naissance à un enfant, c'est pas quand même hautement critiquable. Eh bien, cette purification, si vous voulez, parle d'un péché qui est, comme le dit saint Augustin, un manque d'être. Et donc le salut, c'est pas une question d'une amnistie, d'effacer des fautes anciennes ou même du péché originel dont on voilà d'arrière-arrière-grands-parents, bien sûr que non, car Dieu, nous dit l'Évangile, est amour. Donc la question, c'est pas celle du pardon ou de l'amnistie, comme si, puisque Dieu ne garde pas rancune. Mais ce péché, c'est du péché, c'est du manque d'être. Et donc effectivement, le salut qu'ils ont là, que Marie a pu accueillir dans sa chair, produire même dans sa chair, car c'est une collaboration entre l'homme et Dieu, bien sûr. Ou ce salut que peut tenir Siméon dans ses bras, eh bien, il est encore tout petit, il n'est pas encore très actif. Et donc, ce péché, c'est du manque d'être, c'est du manque de développement, c'est du manque de croissance. Et donc, oui, le salut attendu, c'est quelque chose qui vient qui vient apporter en nous un supplément d'être, un supplément de croissance. Et c'est bien ce qui est exprimé dans la fin de cette cantate. Il est le salut, la lumière des païens, pour éclairer ceux qui ne connaissaient pas et pour les nourrir. Donc ce salut, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la lumière. C'est le contraire de l'aliénation, car la lumière, ça permet de voir de ses propres yeux, et donc de se diriger de ses propres yeux, d'avoir une créativité personnelle, une vocation personnelle, et pas simplement avoir devant soi des rails qu'il faudrait suivre sans s'écarter. Pour ça, il n'y a pas besoin d'avoir clair pour suivre des rails. La locomotive, elle ne doit pas trop réfléchir pour avancer et prendre sa direction. Alors que là, non, il est question de voir de ses propres yeux et d'être nourri pour pouvoir être meilleur, plus et mieux nous-mêmes. Voilà ce salut qui nous est proposé, et donc de mourir à tout ce qui pourrait être négatif, statique, arrêté, aliéné, pour se lancer dans une dynamique de vie, de créativité personnelle. Voilà ce qui nous est proposé, je crois, dans cette belle page d'Évangile, comme un idéal et comme une réalisation de notre salut. Donc maintenant, nous pouvons nous ouvrir à cette joie que nous propose Jean-Sébastien Bach d'accueillir ce salut dans notre existence. Et donc je peux céder la place à Georges Guillard et puis ces musiciens qui vont nous faire vibrer donc cette cantate de Bach. Merci beaucoup.